Alors, eh bien, bienvenue pour cette deuxième rencontre du cycle d'exposition Comment bâtir un univers qui ne s'effondre pas 2 jours plus tard. Aujourd'hui, on va parler de cette exposition, donc avec les deux commissaires, Vladimir Demoule et Marie Faure, et avec notre invité, Yann Semin-Sennewald, qui est critique d'art, journaliste, enseignant-chercheur, et par ailleurs, qui a été cette année lauréat du Grand Prix de la critique de l'AICA, donc de l'Association internationale des critiques d'art en France, et moi-même, donc Thierry Fournier, artiste et commissaire aussi. On va peut-être déjà dans un premier temps, je pense, laisser la parole à Marie et Vlad, Ymir, les deux commissaires, pour que vous nous parliez un petit peu. Peut-être ça peut être quand même, enfin, je sais que voilà, du coup, la forme récurrente appelle ça, mais ça me semblerait peut-être pas inutile de reparler, mais très 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 rapidement, du projet général pour resituer ce deuxième volet dans le projet général. Voilà, que vous nous racontiez un peu quelle direction vous avez adoptée pour ce volet, les œuvres, etc. Et puis ensuite, on va embrayer au fil de la discussion avec Émile. Et donc, surtout, n'hésitez pas à intervenir dans la discussion.
Enfin, poser des questions.
On est, voilà, on va profiter du fait qu'on est très peu nombreux pour en discuter de manière hyper ouverte. Et voilà, donc n'attendez pas qu'on ait fini. Voilà, si vous avez des questions à poser, des remarques, etc., allez-y. Je vous laisse la parole.
Eh ben oui. Ce cycle d'expo, c'était la réponse à un appel à projet qui avait été lancé par la Maison Populaire. L'appel à projet s'intitulait Espace-temps, intuition, découverte, connaissance. Et donc on y a répondu avec Comment bâtir un univers qui ne s'effondre pas 2 jours plus tard, donc en 3 expositions, qui part d'un texte de Philippe Cadic, qui est écrit comme s'il était une conférence, mais qu'il n'a jamais donné a priori. Et oui, il commence par expliquer qu'il raconte un épisode où il est interviewé avec Norman Spinrad par Paris Télé à Disneyland dans Les Tasses qui tournent et sur le bateau pirate avec des enfants avec des oreilles de Mickey qui lui courent autour et où il doit parler de la montée du fascisme et de choses comme ça. Et il explique la difficile position de l'auteur de science-fiction qu'on commençait, donc ça date de 78 ce texte, qu'on commençait à l'époque à considérer comme étant une sommité dans un domaine, mais lui ne savait pas trop dans quel domaine. Donc il parle du réel, notamment, qui est sa grande interrogation, sur qu'est-ce que le réel, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qu'être un être humain dans le réel. Et de ce texte, on a tiré les fils donc, de ce cycle et de ces 3 expositions. La première s'appelait Simulacre, elle a eu lieu de janvier à mars. Et elle abordait un peu plus frontalement la question de la perception de l'espace-temps directement. Et la deuxième,
la
relativité.
Réalité surtout,
hein?
Et de la réalité surtout.
Oui, de la réalité. Et d'un réel peut-être parfois plus conçu que perçu. Et donc cette deuxième exposition, Relativité, qui s'intéresse à la perception du temps. En fonction de l'espace notamment.
Voilà. Et donc dans cette exposition, donc relativité, donc évidemment on fait référence à la théorie de la relativité, mais on la prend pas au pied de la lettre. On s'est plus tourné vers l'idée de la perception du temps, mais pas le temps en tant que tel. On peut comprendre aussi le temps comme une fréquence, comme un mouvement. Donc ça peut être la lumière, le son, voilà, plein de choses comme ça. Et la théorie de la relativité dit qu'on perçoit le temps de façon différente en fonction du référentiel dans lequel on se trouve. Et de cette même façon, donc le référentiel, ici, on ne va pas forcément parler non plus de référentiel avec trois coordonnées d'espace x, y, z, mais ça peut aussi être le référentiel de la conscience, de, bien sûr aussi de l'espace, mais voilà, aussi de l'œil, du cerveau, de choses plus scientifiques qui peuvent se dérouler.
Comment vous travaillez pour rechercher les artistes? Comment ça se tisse le passage de ça à un programme d'exposition,
C'est un processus assez lent de construction à partir d'une idée un peu lointaine au début.
Ouais.
Et puis d'une œuvre où on se dit tiens, ça c'est intéressant, et puis du coup on fait des recherches autour de l'œuvre qui nous amène vers d'autres sujets aussi, qu'on commence à vouloir intégrer du coup au questionnement, parce que essentiellement on se pose des questions, mais c'est pas forcément d'avoir un discours sur nos sujets, on essaie de les interroger. Ce qui nous amène à une autre œuvre, et au fur et à mesure, comme ça on construit. Après, on essaye d'avoir des médias différents autant que possible, et de pas être juste dans une expo. Mono-médium. On essaye d'avoir des artistes qui viennent de milieux différents, qui ont des âges différents, qui ont des cultures différentes, qui peuvent apporter chacun un point de vue un peu différent du coup à la question. Voilà.
En fait, le grand risque, je trouve, dans ce genre d'exposition, c'est souvent que on tombe sur des œuvres et on a l'impression que c'est l'illustration d'un propos. Moi, je trouve particulièrement ici, c'est pas le cas.
C'est quelque chose auquel on fait très attention, justement, de pas tomber dedans. On a, nous aussi, assez horreur des commissariats où il y a trois lignes de texte, l'install qui explique les trois lignes de texte, trois lignes de texte, l'install.
On part, nous, de toute façon, d'une idée générale de quelque chose dont on a envie de parler, de questions dont on se pose. Et évidemment, du coup, on commence par chercher des artistes et des œuvres qui travaillent sur ce genre de sujet. Mais au final, notre réflexion première, elle est presque caduque au bout d'un moment, puisque c'est une fois qu'on a trouvé les œuvres, et c'est les œuvres vraiment qui vont nous inspirer le discours qu'on va ensuite essayer de traiter. Et aussi, du coup, la façon dont les œuvres communiquent aussi entre elles, puisque une œuvre isolée, du coup, va peut-être parler de quelque chose, et l'autre aussi de quelque chose, mais mis ensemble, du coup, vont ouvrir la réflexion sur d'autres questions.
On peut presque dire que si on fait un parcours dans l'exposition, je trouve, et si on rajoute peut-être un petit regard sur les livres qui sont là, que c'est un genre d'argumentaire, argumentaire dans le sens de réflexion sur un sujet, mais également de proposition, comment aborder une question, comme la question de la relativité, comme la question de la construction, parce que en fait, pour moi, en fait, le premier pas que vous avez fait pour éviter l'illustration, c'est de choisir un titre qui ne permet pas forcément de tout de suite saisir l'enjeu. En fait, on est où? On ne sait pas. Enfin, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un peu cette dimension aussi de, je sais pas, de narration qui joue un rôle. Je sais pas. Enfin, peut-être vous pouvez en parler de cette fictionnalité peut-être qui est là aussi.
Oui, c'est ça. Après, c'est vrai qu'en partant du texte de Kadic, donc comment bâtir un univers qui ne s'effondre pas deux jours plus tard, c'est une question qui n'a pas de réponse. Et quelque part, on trouve en tout cas que les artistes qu'on présente dans cette expo et aussi dans celle d'avant et qu'on présentera dans celle d'après, ils posent aussi quelque part cette question, c'est qu'ils essayent de bâtir quelque chose, ou pas, et après ça tient pas, et on se rend compte que la question de la temporalité vraiment de l'œuvre, elle ne peut pas se résumer juste à l'œuvre elle-même. C'est aussi pour ça qu'on a choisi de présenter des livres dans l'exposition, pour essayer d'ouvrir un petit peu la réflexion, de mettre une marche en plus à ce que l'œuvre a commencé à questionner. Et de, voilà, tout ça en fait est une sorte de tout et d'un flou artistique qui évolue aussi. Enfin, nous, on veut pas, on aime bien poser plein de questions, mais ça ne nous intéresse pas forcément d'y répondre. Juste de les poser.
Ce qui est assez sensible, je trouve, quand on... moi, c'est un exercice que j'avais déjà fait la première fois et que j'ai refait la deuxième fois, enfin, pour la première exposition, que j'ai refait pour la seconde, c'est que si on parcourt l'exposition chaque fois en ayant en tête les quelques phrases de départ qui amorcent comme ça, voilà, ce qu'on pourrait appeler la notice, quoi, et bien ça résiste chaque fois, en fait. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui déboîte, quoi, qui fait que non, c'est pas vraiment ça. Mmh. Et du coup, c'est la résistance, je trouve, singulière de chaque pièce qui fait qu'à un moment donné, quelque chose naît dans leur relation qui vient de leur communauté de résistance à ça, en fait. Et ça rejoint ce que disait Yann Sémine tout à l'heure. Et je trouve intéressant, justement, la manière dont chacune de ces pièces résiste à un programme, quoi. Il y a quelque chose qui ne se laisse pas, qui ne répond pas vraiment, quoi. Et moi, je sais que personnellement, j'aime beaucoup ce déboîtage, quoi.
Ce qui nous intéresse, c'est de les mettre en valeur, les œuvres. Et c'est pas de créer juste un gros sac avec un tas d'œuvres à l'intérieur et voilà, c'est l'expo. Donc c'est important qu'elles puissent s'exprimer chacune en tant qu'œuvre au-delà de l'exposition collective. Et après, qu'elles soient toutes dans l'espace, ça fait qu'on va regarder une œuvre, on va aller en voir une autre, puis on va se dire, tiens, une autre œuvre va apporter quelque chose à l'œuvre qu'on a vue avant. C'est aussi pour ça qu'on ne veut pas qu'il y ait de parcours, justement, qu'il n'y ait pas de sens de l'exposition, qu'on puisse la prendre par n'importe quel bout. Parce qu'il faut qu'elles puissent toutes apporter quelque chose.
Là, je pense que justement, on peut aussi la voir différemment selon le bout où on la prend, en fait. C'est que peut-être qu'une œuvre va poser une question, pas forcément, ça peut être quelque chose de très personnel chez le public, qui va se poser une question devant une œuvre, et puis du coup, il va en voir une deuxième après, et puis vu qu'il avait vu la première avant, ça va influencer son questionnement, alors que du coup, s'il les prend dans l'autre sens, les questions ne sont pas forcément les mêmes. Du coup, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir aussi faire des allers-retours comme ça entre les pièces, et du coup, de pas avoir de sens prédéfini à la pensée.
En jetant un œil à la bibliothèque, et même juste au titre, ça donne aussi d'autres choses à penser. Mais oui, du coup, nous, quand on fait la scéno des expos, on fait notre petit dessin de masse comme ça. On place les pièces, puis on dessine une toile d'araignée pour voir comment chaque pièce va communiquer comment avec les autres, comment elles se répondent, qu'est-ce qu'elles se disent les unes les autres. Et éventuellement, on fait des
expériences. On essaye de, si deux pièces vont parler peut-être un peu du même propos, même si ce n'est pas exactement de la même façon, au lieu de les mettre à côté pour que ce soit une sorte de continuité de la réflexion, on va plutôt s'amuser à aller les mettre aux endroits complètement opposés et du coup de voir justement le cheminement entre l'une et l'autre et le cheminement de pensée aussi du public qui va reconnaître peut-être une question et une autre, mais qui, du coup, il va être passé par plusieurs autres œuvres entre-temps. Je pense en tout cas plus intéressant.
J'aimerais bien rebondir sur le mot de résistance. Parce que je trouve que ça reprend bien ce qui actionne cette exposition. Il y a une résistance, il y a même une résistance dans le titre, parce que quand on lit le titre « Comment bâtir un univers qui ne s'effondre pas deux jours plus tard », le premier réflexe que j'avais, c'était de me poser la question « Mais pourquoi bâtir un univers ?» En fait,
oui,
c'est déjà un sous-entendu, mais l'univers, ça se construit pas. Et par cette question, on est amené à entrer dans une réflexion. Ah oui, mais qu'est-ce que ça veut dire construire? Qu'est-ce que c'est la construction? Qu'est-ce que ça amène comme dimension fictionnelle, etc. Et pour moi, quand on circule dans l'exposition, à chaque moment, prenons Malarie Farrell par exemple, à chaque moment, on est amené à entrer dans une proposition de narration, par exemple, mais la pièce elle-même fait résistance par rapport à une lecture trop facile, par rapport à quelque chose de rassurante, quelque chose qui nous dit ce qu'on a toujours voulu entendre, des choses comme ça. Est-ce que cette notion de résistance vous a aussi semblé important de le mettre en scène?
Pour être honnête, enfin moi, je n'ai pas
pensé. C'est pas quelque chose sur lequel on a travaillé, non. Mais je pense qu'intuitivement, ça découle du reste à un moment donné. Le fait d'être attaché à montrer des pièces qui ont une force de caractère, ça implique ça, je pense.
Oui, parce que si on veut aller sur le titre de cette soirée, qui est justement Mémoire et temporalité, on pourrait dire ce qui fait qu'un souvenir devient un bout de mémoire, c'est justement la résistance à l'oubli, mais aussi la résistance à ce qu'on pourrait appeler une sentimentalité, quelque chose, un récit trop facile. Là, je reviens sur la pièce parce qu'on a encore regardé et je l'aime beaucoup. En fait, si vous ne l'avez pas encore vu, à côté, il y a une pièce de Daniel Schwery qui, je ne sais pas, peut-être je vous laisse raconter la pièce. C'est juste une histoire assez étonnante.
Vous pouvez aller jeter un œil avant qu'on vous explique peut-être pour que vous puissiez voir. Elle est juste là derrière, oui.
Elle est juste là, allez voir.
Ça vaut le coup parce que, d'une certaine manière, cette pièce, elle parle d'une temporalité liée à l'objet. Je trouve extrêmement présente.
C'est le bronze de Daniel Schwery. Donc pour resituer Schwery, il faisait partie du courant des nouveaux réalistes, qui consistait à accumuler des objets du quotidien pour impliquer le spectateur dans l'art contemporain. Et parmi les nouveaux réalistes, Schwery a fondé son propre courant qui s'appelle le Eat Art, E-A-T, l'art de manger, où il préparait des repas qui servaient à des convives, et le repas était conçu comme une performance, en fait, où la question du partage, la question de l'instant, du moment, de ce qu'on faisait ensemble quand on mangeait, était fondamentale. Et à un moment donné, il interrompait le repas, il coulait la table du repas dans la résine, il prenait le plateau de la table, il le mettait sur un mur, il appelait ça un tableau piège, qui était du coup qui piégeait cet instant du repas à partager ensemble. À un moment donné, il a décidé d'arrêter d'arrêter de faire des tableaux pièges, et donc il a organisé un happening en 83 dans le domaine du château de Jouy-en-Josas, qui n'était pas encore la fondation Cartier à ce moment-là. Il a invité une centaine de convives à venir partager un repas qu'il avait fait, donc à base de tripes essentiellement. Il demandait à chacun d'apporter un objet personnel, et donc tout le monde a mangé comme ça ensemble. Et à un moment donné, il a interrompu le repas et il avait fait creuser une grande tranchée de 30 mètres de long à côté. Les gens ont pris les plateaux des tables et les ont enterrés, et ils ont recouvert de terre. L'idée dès le début pour lui, c'était de faire fouiller ces tranchées plus tard. Alors il se trouve que l'archéologue avec qui il avait prévu de faire ça est rentré dans les ordres et est devenu moine. Et moine trappiste d'ailleurs.
Je savais pas ça.
Et du coup, ça s'est pas fait. Et le souvenir de ce happening s'est un peu perdu. Même c'est complètement perdu. Les gens qui avaient participé étaient plus certains d'y avoir vraiment participé. Ils se souvenaient plus de s'ils avaient juste mangé ou si ça avait été vraiment enterré, si c'était plutôt une allégorie, parce que du coup, le happening s'appelait l'enterrement du tableau piège. Il y a d'autres gens qui n'y étaient pas, mais qui étaient convaincus d'y avoir été. Du coup, aujourd'hui, il y a une liste, il y a trois listes en fait. Il y a une liste des gens qui disent y avoir été et qui sont sur les photos. Il y a une liste des gens qui disent y avoir été mais qui ne sont pas sur les photos. Et une liste des gens qui jurent ne pas y avoir été mais qui sont quand même sur les photos. Et du coup, finalement, ce happening a été fouillé en 2011. Une partie, en tout cas, 10 mètres des tranchées, même pour retrouver la tranchée. Ça a été très compliqué. Le propriétaire ne se souvenait plus. Il disait, mais si, c'est là. C'était orienté comme ça par rapport au soleil. Ils ont fait les sondages, pas du tout. Et donc, 10 mètres ont été fouillés. Et 1 mètre carré de ces 10 mètres a été moulé en résine et tiré en bronze. Donc, il y a 3 exemplaires de ce bronze. Il y a celui-là. Il y a un exemplaire pour le mouleur.
Oui.
Et un exemplaire pour Schperi qui est dans son
jardin.
Jardinier au nord de la Sicile. En Sardaigne. Et donc voilà, ça pose pas mal de questions, l'ensemble de ce happening et l'existence de cette pièce. On retrouve une brosse à dents avec un corps de femme.
Est-ce qu'il avait demandé du coup aux participants d'amener des objets personnels et du coup effectivement sur cette partie du coup de la fouille il y a dans une assiette en fait on voit une brosse à dents dont le manche est taillé en corps de femme et, du coup c'est devenu la
Vénus de Julie.
et on en parlait tout à l'heure, c'est assez amusant d'être confronté à un matériau archéologique comme ça que tout le monde considère comme très ancien en général. Quand on voit le résultat de fouilles archéologiques, c'est pas quelque chose qui vient de se produire, en tout cas quelque chose qui ne fait pas partie de notre culture ni de notre époque. Et là, je remarquais tout à l'heure que sur une des fourchettes en métal qui reste, il y a cette fameuse petite coquille Saint-Jacques ou sur le manche. Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais moi tout de suite je me suis dit mais oui en fait chez mes parents moi j'avais sur tous les couverts en métal il y avait ce petit symbole et du coup c'est drôle de retrouver du coup ces éléments qui font complètement partie de notre époque dans une fouille archéologique.
Mais c'est aussi ça parle aussi justement de la réactivation de quelque chose qui est, en fait il y a deux choses que je trouve vraiment fascinant par rapport à ça et qui répondent très très bien aussi au thème de relativité, mais pas forcément dans le sens de la physique quantique, mais plutôt dans le sens de relativité par rapport au temps. La première étant que cette histoire elle montre bien qu'il y a un événement, après l'événement il y a le récit de cet événement, le récit se transforme en légende, la légende se transforme en mythe, et puis d'une certaine manière ce qui s'est passé est oublié. Mais en fait ça pose seulement problème si on conçoit récit et donc la narration comme étant quelque chose qui doit porter un contenu, comme si le contenu peut être posé dedans comme dans une boîte et passer par le temps et on ouvre la boîte et ça sort complètement inchangé. Sauf que c'est pas le cas. En fait, c'est grâce notamment à la physique quantique qu'on a aussi compris que il y a rien que un voyage dans le temps et tout est relatif par rapport au moment où ça apparaît. Donc cette notion d'histoire qui fait appel à une origine n'a plus de sens. Et ce que je trouve fort dans cette pièce, c'est que cette pièce elle prend toute son ampleur justement au moment où on reconnaît quelque chose. Et c'est là où on se transporte dans le temps. C'est-à-dire, on voit quelque chose qu'on connaît, qui est contemporain à moi-même, mais en même temps, on voit une pièce qui est ancienne, enfin, qui a un certain temps, qui a passé un certain temps, et c'est à ce moment-là, je trouve qu'on comprend que le temps, c'est quelque chose lié à la perception. À la perception dans le sens de l'apparition de quelque chose. Là, ça nous renvoie à la notion de l'existence, au moment où quelque chose sort, pas de l'oubli, mais sort de l'ombre, en fait. Sort et a fait son apparition. Et cette apparition, elle est toujours liée à celui qui regarde, celui qui reconnaît. Moi, je ne connais pas ces couvertes, mais il y a d'autres éléments qui me parlent. Et donc, du coup, cette relativité, par ailleurs, elle agit très très fort aussi dans cette pièce.
Et dans celle de Malaki aussi, je
pense. Oui, oui. Oui, tout à fait. Ça, je trouve, c'est vraiment... c'est quelque chose qui m'a pas mal occupé pendant un moment où j'ai justement pas travaillé sur le temps, mais sur la notion de l'espace. Et on a fait des colloques, etc. On a beaucoup discuté la notion de l'espace comme pas étant un élément physique, comme une boîte qui est toujours là, et on entre et on sort et ça reste inchangé, mais comme étant quelque chose qui se met en place au moment qu'on y prête attention. Donc, pour le nommer, c'est le regard phénoménologique qu'on partage par ailleurs sur l'espace, et il existe également sur le temps, c'est-à-dire on fait d'une certaine manière toujours corps avec ce qui apparaît. Sauf que cette apparition, donc, pour revenir sur la question dans la question, il ne s'agit pas d'une construction. Parce que la construction sous-entend qu'il y a c'est quelqu'un qui... Mais en même temps, c'est quand même une... comment dire ? On sort quelque chose de sa latence. Il y a une latence et elle est réactivée. Et chaque réactivation le change. Je me rappelle quand on est venu visiter l'exposition, on a fait l'expérience de cette pièce. Là, je suis loin des bancs, il faudrait s'asseoir. Mais je la vois aujourd'hui complètement différemment que la dernière fois que je l'ai vue. C'est dingue parce que la dernière fois, j'ai pas du tout eu le regard, par exemple, musical, fréquence sonore. J'ai vu plutôt un truc très objet, lourd, sculpture. Mmh. C'est voilà. Donc, je voulais pas monologuiser, mais pour porter cette.
En fait, c'est d'une certaine manière, moi j'avais une question qui était un peu l'inverse de ta question. C'est-à-dire, justement, qui continue sur comment vous concevez. Je trouve ça intéressant, justement, puisque chacune de ces pièces propose quelque chose qui est de l'ordre de la transmission, de la réception, etc. Quelles sont les pièces, par exemple, avec lesquelles vous avez été, qui, lorsque vous les avez exposées, ne correspondaient pas du tout à ce que vous imaginez ? Est-ce qu'il y a des pièces qui, pour vous, ont vraiment, dans cette expo-là, ont vraiment été une surprise par rapport à ce que vous imaginiez ? J'imagine qu'il y a certaines pièces que vous avez déjà vues en expo, d'autres que vous avez vues sur le web, ou que vous avez vues peut-être sur les books des artistes, ou que vous avez déjà vues en expo.
C'est un grand mot, je pense, surprise, mais parce que quand même. Mais l'ensemble de l'install de Mathias.
Oui.
Quatre installs, la grosse install, je ne sais pas.
C'est un projet qu'il avait avant et que du coup qu'on a produit pour cette exposition, qui est un projet qui n'existait pas matériellement parlant. Et,
ça a été créé pour l'exposition.
C'est une idée qu'il avait déjà,
oui.
qu'il voulait réaliser, et il nous en a parlé. Et du coup, quand on lui a expliqué un petit peu. Parce que c'est un artiste qu'on connaît personnellement.
Ouais.
Et quand on lui a expliqué les thèmes un peu de cette exposition, il nous a parlé aussi de ce projet qu'il avait. Et effectivement, pour nous, on trouvait que ça collait complètement.
Après, comme c'est une production, on l'a accompagné, on a suivi le processus de création avec lui aussi.
Donc au final, c'était pas
mal de
conseils,
donc voilà, on l'a pas découvert le jour où il l'a mis là.
Donc quand je dis surprise, c'était pas dans le sens où une pièce sort de la boîte, voilà. Mais c'est quelque chose qui, là aussi, se tord par rapport à ce qu'on vous imaginait au départ, enfin, qui emmène le projet, pardon, excusez-moi, qui emmène le projet à un endroit qui n'était pas prévu, quoi. Je pense notamment à celle-ci, donc c'est Mathias Pasquet. On a dit son prénom, mais pas son nom de famille. Parce que c'est vraiment, là, on est vraiment face à une pièce proliférante, enfin, sur un ensemble. Vous pouvez nous en parler un peu, même par rapport à ce que vous connaissiez auparavant du travail de Mathias Pasquet, comment ça s'est comment ça s'est mis en œuvre.
Nous, on connaissait un de ses travaux qui était un travail archéologique qu'il a fait avec l'INRAP, qui est l'Institut national de recherche archéologique préventive, autour d'un site qu'ils ont en Île-de-France, mais je ne sais plus. Donc, pour parler de cette install, elle est en quatre parties. Donc c'est autour de la plage de Damgan, qui est une plage dans le Morbihan, qui est la plage où il a passé son enfance et où sa mère a passé son enfance aussi. Donc la première partie à gauche, c'est un ensemble de photos qu'il a fait aujourd'hui sur la plage et qui lui rappelle des souvenirs d'enfance, qui sont exposés sur un fond qui ressemble à un cerveau, qui est en fait un ensemble de photos de la plage qu'il a collé pour créer cette forme. La deuxième partie qui est au milieu, qui est composée de deux films, a pour vocation d'essayer de faire ressurgir du souvenir. La vidéo du haut, il a tourné cet hiver avec sa mère et sa sœur, et ils reproduisent un jeu qu'ils pratiquaient quand ils étaient enfants, qui s'appelait Sorcière, qui est une espèce de chat perché dans le noir avec des talkie-walkie et des lampes, où ils courent dans le noir en essayant d'attraper la sorcière. Et donc ils ont enregistré ça avec des caméras sur la tête et du son. Et la vidéo du bas, c'est deux rêves, parce qu'en fait Mathias Pasquet, il note ses rêves la nuit. Et c'est deux rêves qu'il essaye de reproduire en allant filmer sur la plage. La troisième partie qui est consacrée à la mémoire, ce qu'il appelle la mémoire héréditaire, il y a quatre photos qui sont des photos de lui enfant sur la plage et sur les plexis des cadres. En surimpression, il y a des photos de sa mère quand elle était petite sur cette même plage. Et dans la bouteille, qui est une bouteille qu'il a trouvée, qui était vraiment une bouteille à la mer, qu'il a trouvée sur la plage, où il avait d'ailleurs échangé pendant un certain temps avec la personne qui avait jeté cette bouteille, avec son adresse dedans. Il a demandé à sa mère d'écrire des souvenirs qu'elle lui avait jamais racontés, donc il les a roulés, il les a mis dans la bouteille, sans les lire. Et la quatrième partie, qui est du coup là un peu ajoutée, puisque normalement il y a une projection vidéo au milieu, qui est autour de la mémoire collective partagée. Et il a cherché sur internet, il a tapé plage Damgan et il en a récupéré les photos qu'il trouvait sur Google Images, donc il en a imprimé un certain nombre et il a fait un montage vidéo qui normalement est projeté au milieu, qui se présente comme un tutoriel pour utiliser une nouvelle application qui serait une application Google qui s'appellerait la machine à rêve, dans laquelle on entre ses rêves et ensuite Google crée un film à partir de ça. Donc il entre les deux mêmes rêves que ceux qu'il essaye de reproduire en bas à gauche. Et il les illustre ce coup-ci uniquement avec des vidéos qu'il a trouvées sur Internet, avec les mots-clés plage d'Allemagne.
Ouais, donc c'est vraiment un prisme, une série de tentatives autour d'une même chose qui lui fait défaut, quoi, en fait, autour d'un. Comme s'il y avait un centre qui était absent, qui justement, pour le coup, renvoie à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire quelque chose qui serait de l'ordre de la mémoire, mais qu'on n'arrive pas à rappeler complètement.
Et puis il y a l'idée que ses souvenirs en fait sont là, présents en lui, et que qu'il a besoin. En fait, il a vécu une expérience d'hypnose qui lui a rappelé des souvenirs de quand il était enfant qu'il avait, mais complètement oublié pour lui, enfin même, du coup c'était presque de l'ordre du rêve, mais comme un rêve nous, on a l'impression qu'on connaît déjà cette chose mais on n'est pas tout à fait sûr, et c'est de là qu'est venue aussi cette démarche. Et après cette expérience, quand il était retourné sur cette plage, du coup il a eu de nouveau comme des flashs un peu des images de lui enfant, de souvenirs qui lui revenaient, alors qu'il y allait quand même souvent sur cette plage, ses souvenirs ne revenaient pas obligatoirement. Du coup, c'est comme s'il y avait un premier souvenir qui était un peu sorti artificiellement, en tout cas de sa mémoire, et qui avait emmené avec lui, qui avait entrouvert une porte en fait pour que tout le reste sorte. Et c'est aussi pour ça donc qu'il note ses rêves, et il fait vraiment ce travail d'essayer d'aller les chercher, au final d'aller chercher cette mémoire qui est enfouie en lui, à laquelle il n'a pas accès.
En même temps, pour revenir sur cette notion de résistance, ça montre également la nécessité de l'objet qui en soi ne représente pas le fait qui est passé, mais qui a comme seul but de créer la résistance permettant à réactiver un souvenir. Mais ce souvenir, on ne peut jamais être sûr que c'est quelque chose de vécu. Ce que je trouvais fort dans cette histoire de Daniel Schperi, et ça me rappelle, vous avez peut-être entendu parler de cette étude qui a été faite avec des gens où on arrivait à les faire croire qu'ils ont commis un crime quand ils étaient jeunes. C'est-à-dire, c'était pas par suggestion, genre hypnose, c'était juste par la manière dont on parlait avec eux. On arrivait à les convaincre d'un faux souvenir. Ce qui montre que justement, les souvenirs, les mémoires, c'est apparemment quelque chose qui s'adapte au présent. Mais en même temps, et c'est là où je voulais amener aussi le sujet de temporalité. Moi, je trouve ici, on n'est pas dans une logique de temps linéaire, de passé, présent, futur. Donc, il y a une présence. Cette présence, elle est liée à l'objet, donc à cette résistance. Mais c'est une présence qui, en soi, n'évoque pas le passé et le futur. Donc, c'est pas une présence temporelle, mais plutôt une présence corporelle, je dirais, enfin une présence d'objet.
Sensorielle.
Oui, sensorielle, voilà, sensorielle. Qui, voilà, ce qui m'amène à la question, alors, comment concevoir ce temps? Est-ce que le temps se conçoit que à travers d'un vécu instantané? Est-ce que la temporalité, c'est quelque chose lié à un ressenti? Est-ce que de toute manière, parce que là, avec la relativité, c'est le risque toujours aussi que, on va nous dire, anything goes. On peut toujours penser à ce qu'on veut et on peut voir ce qu'on veut et on peut toujours dire, ah oui, mais ça me rappelle ça et c'est vrai. Donc cette question de pas de vérité, mais plutôt de, on dit véracité, c'est ça ?
Véracité.
Ouais, de véracité, c'est peut-être lié. C'est une question un peu nuageuse. Peut-être plus précisément,
oui.
Votre notion de temps, elle s'exprime comment? Qu'est-ce que, pour vous, le temps, c'est...
Justement, on n'a pas voulu traiter le temps comme on l'entend le plus souvent. Un temps qui s'écoule, un temps qui se mesure, un temps... C'est pas vraiment ça, t'sais. Oui, voilà, on a plus voulu partir dans le perçu, dans le sensoriel, dans le... Au final, on fait aussi la suite avec la première exposition qui était le simulacre, et du coup, par exemple, avec les pièces un peu plus scientifiques de Flavien Théry et de Maxime Damecourt, même de Pierre-Laurent Cassière, on voit des choses qui, au final, n'existent pas en vrai. C'est notre cerveau qui les crée, qui nous donne cette illusion.
On peut le prendre dans l'autre sens aussi.
Et on peut aussi prendre... Oui,
c'est notre cerveau qui ne les voit pas.
Ou alors c'est notre cerveau qui ne les voit pas comme il devrait les voir. Et cette question de notre perception du temps, et là pour le coup de la fréquence, lumineuse et de la fréquence sonore, elle venait de nouveau poser une autre question auquel on ne cherche pas non plus à répondre, mais c'est bien aussi d'interpeller un peu sur cette question de réalité, de montrer au final aussi bien, est-ce que c'est plusieurs réalités qui coexistent dans un même espace et que via le dispositif de l'œuvre le public peut y avoir accès, ou est-ce que c'est effectivement juste bêtement parlant le cerveau qui associe des images ensemble et qui va créer c'est une question que ces œuvres posent et qui mérite d'être au moins réfléchie, même si
Et puis une autre chose aussi quand même que je trouve assez frappante, c'est le fait justement dans la même exposition d'avoir des choses qui font appel à des temporalités qui sont inframinces, quoi, qui sont vraiment comme la pièce de Flavien Théry, ou encore un peu plus lent cette pièce-là, mais au contraire avec des choses qui, elles, vont du côté du temps long, du temps historique, du temps vécu, comme cette installation ou comme la sculpture de Schreuil, etc. C'est-à-dire qu'on a, dans la même exposition, on a des choses qui sont liées à ce qu'on appellerait la temporalité dans l'acception courante du terme, c'est-à-dire au sens de la durée de la vie, quoi, ou la mémoire des événements qui nous sont arrivés, etc. Et puis des choses qui sont de l'ordre de la mémoire de ce qui s'est passé il y a un dixième de seconde. Quoi. Et ça, je trouve vraiment très, très particulier le fait d'associer dans un même continuum ces échelles-là, qui sont généralement l'une confinée à l'endroit de ce qu'on appellerait l'historique, tu vois, même Malaki Farel, de ce point de vue-là, et aussi peut apparaître comme une sorte de sédimentation de souvenirs, quoi. Enfin, c'est une autre.
Du coup, c'était intéressant d'associer.
De jouer ces deux échelles-là.
À la fois, en fait, le temps. Bah plutôt psychique, enfin voilà, la mémoire et le temps physique, le temps scientifique qui est, par exemple, que, je sais pas comment dire ça exactement, mais ces deux temps en fait ne sont au final qu'un seul et composent notre perception du temps, que ce soit par la mémoire, par notre conscient, par quelque chose de vraiment complètement physique. Oui, mais quand tu parles de dixième de seconde, en fait, c'est que on se rend pas compte, on n'a pas la volonté, en tout cas, de se souvenir de ce qui s'est passé il y a un millième de seconde plus tôt. C'est juste que c'est comme ça, c'est physique.
Alors, je vais poser ma question autrement. Ce que je trouve intéressant, c'est par exemple la manière dont, ben là c'est un point de vue personnel, c'est pour moi, je vais faire un aller-retour, je repense à la toile d'araignée dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que ça me fait quand je fais l'aller-retour entre Flavien Thierry et Mathias Pasquier, par exemple? C'est-à-dire que tout à coup, comment le fait de voir la pièce de Flavien avec quelque chose dont je vois bien qu'il s'agit de la manière dont mon cerveau interprète une fréquence lumineuse, donc. Je vois à peu près de quel ordre de fréquence il s'agit, mais justement le fait de percevoir une temporalité là, le fait de percevoir quelque chose qui est visuel, mais dont je comprends que l'effet visuel est lié à la temporalité, fait que je vais regarder ça autrement. Ça me fait que dans ce temps long, dans ces choses qui me sont données à voir comme étant des constructions temporelles à l'échelle de la vie, quoi, de la mémoire, je vais commencer à regarder autrement la lumière de la vidéo.
C'est-à-dire qu'il y a... ce que je veux dire, c'est qu'en fait, les deux sont vraiment indissociables.
Oui.
Et que du coup, effectivement, si on commence par regarder la pièce de Flavien Thierry et qu'on se rend compte effectivement que c'est la façon dont on est constitué, notre œil, notre cerveau, qui nous fait voir cette chose de cette façon, du coup, va déjà avoir un peu posé la question du fait que notre cerveau est là et qu'il fait des choses sans qu'on lui demande de le faire. Et une fois qu'on va arriver, par exemple, devant les quatre chapitres de Mathias Pasquier, et ben on va déjà avoir cette petite question qui vient de s'ouvrir. Il y a notre cerveau qui est là et qui fait des choses sans qu'on lui demande de les faire. Et là, du coup, donc voilà, ça c'est comme ça. Et une fois qu'on arrive devant Mathias, on se dit, bon, ouais, alors du coup, notre cerveau fait des choses sans qu'on lui demande de les faire. Et qu'est-ce qui se passe si on lui demande de les faire?
Oui, ça nous renvoie à la notion de subjectivité.
Voilà. Et en fait, du coup, ça marche de la même chose, de la même façon, dans l'autre sens.
Parce que la différenciation entre, ou distinction entre temps physique et temps mental, par exemple, a été écarté justement par la physique quantique, parce que c'est là où on s'est rendu compte que ce temps physique, c'est pas une dimension donnée, elle est à chaque moment différente. Quelque chose qui a été par ailleurs déjà remarqué par le père d'église Saint-Augustin dans ses confessions, où il dit il se pose cette question: qu'est-ce que c'est le temps? Le temps présent est passé au moment où je me rends compte que voilà, le passé n'existe plus et le futur n'existe pas encore. Donc le temps n'est pas. Donc il n'y a pas, dans ce qu'il amène comme réflexion, et c'était le premier, c'est que une approche ontologique au temps n'a pas de sens.
Non, puis elle est quasiment impossible de toute façon en termes de. Ouais. Enfin, si on veut, si on se demande le temps, qu'est-ce que c'est, et ben le temps,
c'est pas net.
C'est, en fait. C'est enfin, ça ne s'explique que en s'expliquant lui-même. Quoi. Le ouais. temps, c'est le temps, et voilà. Ouais.
En fait, le temps n'est que par rapport à un être qui a vécu ou qui est en train de vivre ce temps. Et par Saint-Augustin, par ailleurs, c'est là où il va pouvoir ouvrir la voie vers la croyance, parce qu'il va dire, bah, vu qu'on est sans arrêt dépendant de quelque chose qui n'est pas un être, on est finalement obligé à croire qu'il y a notre pouvoir, notre énergie qui porte cela. Et ce n'est pas pour rien que j'amène là la croyance, parce que ça m'amène à une autre question. J'ai l'impression qu'il y a quand même un jeu de... c'est peut-être aussi une question à poser au public. Il y a quelque chose de l'ordre de connaissance qui est assez présent. C'est-à-dire les connaissances... Je ne dirais pas que vous avez fait une exposition didactique qui transmet des connaissances. C'est non plus une exposition de recherche qui produit des connaissances, mais beaucoup d'œuvres se reposent sur une notion de connaissance. On peut citer les univers qui n'existent pas. Et ces connaissances, à mon avis, ça ouvre absolument cette porte, connaissance comme étant liée à la croyance. Il faut croire que ce qu'on voit là est lié à ce qu'on ressent. On peut nous raconter n'importe quoi, en fait. Il faut le croire. Donc, ce lien, et c'est là où j'entends justement le lien aussi avec le texte qui nous explique Einstein. Et en fait, ça, c'est des connaissances, mais en même temps, ces connaissances sont également dépendantes d'une croyance. Et c'est là où ça se touche entre fiction et savoir, en fait. Savoir et fiction, ils sont vraiment... ils sont parents de toute manière, d'une manière ou d'une autre. Donc ma question, pour en faire une question, c'est pour vous, en fait, où il y a l'enjeu de savoir, est-ce que l'enjeu de savoir se repose dans le voir? Est-ce que c'est à nouveau un enjeu qui est sensoriel plutôt, ou est-ce que c'est justement un enjeu relationnel? C'est ce que tu as évoqué tout à l'heure.
Ben, c'est une question qu'on se pose, qu'on a déjà commencé à poser dans la première expo, Simulacre, donc c'était un peu déjà l'idée. Mais effectivement, notamment en fait, déjà en commençant par les trois pièces les plus scientifiques, c'est la question qu'on se pose, c'est que c'est des pièces où coexistent au même endroit plusieurs réalités.
Et, tu veux dire Maxime Demécourt qui est à l'intérieur?
Maxime Demécourt qui est à l'intérieur, ouais. Pierre-Laurent Cassière qui est ici, ça. Et Fabien Théry qui est là-bas.
Pierre-Laurent Cassière, c'est celle-ci?
C'est le diapason qui est en fait un diapason absolument normal. Enfin, absolument normal.
Non. Pas du tout.
Absolument normal, qui est juste 1m20 de haut.
Et qui vibre à 23 Hz, mais comme tout diapason qui vibre, quand on le voit vibrer, enfin, on ne le voit pas vibrer. Voilà. Et en étant juste filmé par une caméra absolument normale, qui filme à 24 images par seconde, sans aucun trucage, c'est pas un ralenti, c'est pas quoi que ce soit, c'est juste la caméra. On ne voit pas, entre guillemets, la même chose que ce que nous on verrait à l'œil. Le fait du décalage entre la fréquence de vibration des bras du diapason et la fréquence de captation de 24 images par seconde de la caméra. De la même manière, l'installation de Flavien Théry, on ne voit pas la même chose entre quand on regarde l'installation et quand on regarde le sol. Et Maxime Demécourt, en fonction de la séquence de l'installation, on a l'impression qu'il y a plusieurs sculptures qui sont imbriquées les unes dans les autres, alors que non.
Tout comme Irène Fenara,
qui sont censées être des polaroïdes de galaxies très lointaines, qui sont donc à la fois des choses très lointaines qu'on ne pourrait pas atteindre, mais qui en même temps nous renvoient la lumière de leur propre passé, avec un médium qui est lui-même usé et qui est censé être instantané. Donc tout ça cohabite au même endroit. Et nous, c'est une question qui nous intéresse. C'est pas du tout une question à laquelle on veut répondre.
On ne saurait y répondre, je crois.
Enfin, c'est voilà. Et c'est la base du travail de Philippe Cadic, cette interrogation-là aussi.
Voilà où lui, il explique que de toute façon, enfin, comment bâtir un univers qui ne s'effondre pas deux jours plus tard. Et dans son texte, il explique qu'au final, c'est pas très intéressant. Un univers qui ne s'effondre pas, c'est un univers qui n'évolue pas, qui reste constant. Alors que c'est quand même beaucoup plus intéressant de bâtir des univers dans ses romans qui s'effondrent et bon, du coup qui évoluent et qui évoluent en quoi. Et du coup, c'est.
Et comment les personnages se débattent avec un univers
voilà, qui est en train de s'effondrer et comment ils sont obligés de s'adapter. Et c'est là que tout devient beaucoup plus intéressant que quelque chose de constant et d'établi. Et
d'ordonné.
Et d'ordonné.
Plus intéressant, mais aussi plus inquiétant.
Oui.
Oui. En fait, il y a quand même.
Mais parce qu'il y a l'inconnu, on ne sait pas ce que.
Voilà. Je crois qu'il y a cette contradiction entre. En fait, on a tendance à chercher à saisir les choses. Parce que on sait que c'est un phénomène psychique, ça nous demande beaucoup moins d'énergie de revenir sur des choses qu'on connaît déjà. Donc on va jouer un jeu de reconnaissance, on va aimer plus que ce qu'on connaît déjà, ce qu'on peut reconnaître, que ce qu'on ne connaît pas. Donc du coup, apparemment, il y a une tendance à figer les choses. Et à l'encontre de ça, il y a cette résistance de l'objet qui... justement, a toujours ce côté insaisissable, en fait, qui ne permet pas d'être reconnaissable tout le temps. Ce qui m'amène à une autre, je ne sais pas, une question qui ouvre encore peut-être vers le public, c'est la notion du visible. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'éléments qui jouent avec le visible ou l'invisible, ou la tromperie du visible, on peut dire, avec la pièce
de Maxime Lacour.
Qu'est-ce que. En fait, parce que là, on pourrait amener le visible dans la dimension de fiction, de la mise en scène. Mais il me semble qu'il y a un autre enjeu, parce qu'on pourrait également dire, bon, jusqu'à un certain point, les séances dures se sont basées sur ce qui pourrait rendre visible, soit par des expérimentations, soit par l'observation. Et à partir de la physique quantique, on s'est rendu compte, non, c'est pas justement le visible qui va nous dire ce qui est vrai ou pas. Il me semble que dans ce qui est visible, il y a aussi un enjeu politique. L'enjeu politique venant de ce qu'on donne à voir. Et c'est cette pièce qui en parle de la malléabilité de souvenirs, mais également de la manière dont on donne à voir. Bon, notamment la pièce avec Google,
oui.
Donne à voir un souvenir personnel comme étant un souvenir du collectif. Pareil pour la pièce de. Oh là là, je retiens mal.
Fabien Ferry.
Voilà, merci oui. De Fabien.
Et Fénara aussi, c'est beau. Ça,
oui. Oui.
Ça travaille beaucoup. Irène Fénara, ça travaille beaucoup sur ces questions-là. Oui.
Et donc, c'est peut-être, voilà, c'est pour vous renvoyer la balle de parler aussi sur l'ensemble de l'exposition, cette notion de visibilité. J'imagine que c'est aussi un vrai enjeu pour les commissaires d'exposition, parce qu'on est dépendant de rendre visible quelque chose, parce que sinon, on va vous dire, voilà, qu'est-ce que c'est une exposition où on peut rien voir.
Ça peut être un concept.
Il y a la balade sonore.
Oui, il y a la balade sonore.
Lauriane et Alain, où ouais. On ne voit que ce qui est déjà là. Mm-hmm. Et qui nous est raconté de façon différente, qu'on vit de façon différente par la création sonore qui est autour. Et qui, pour le coup, est très politique, elle aussi. Justement, en interrogeant ce qu'on voit, et ce qu'on voit tous les jours, et ce qu'on n'interroge plus, du coup, parce qu'on en a l'habitude, parce qu'on sait que c'est là, et que c'est évident, puisque ça a déjà surgi à un moment donné. C'est devenu, donc en le réinterrogeant par le son, et en essayant peut-être de donner au visible un son qu'on ne connaît pas, dont on n'a pas l'habitude, il y a quelque chose qui se crée, et on commence à se poser des questions.
Oui, ça, on manipule de la même façon qu'on peut donner des images à voir pour manipuler, entre guillemets, le réel, ou en tout cas la perception du réel. Là, du coup, c'est presque un peu l'inverse. En fait, c'est que les images, donc, ce qu'on voit, est là. Donc, lui, il ne nous est pas donné. Mais c'est ce qu'on va nous dire qui va nous donner à voir, en fait. C'est... De synesthésie un peu bizarre, mais...
Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qui vient d'être évoqué
Peut-être des remarques.
Des remarques, des indignations, des révoltes.
Des
Moi, j'ai envie de dire ce que un peu ce qu'on a discuté pas mal ces derniers temps. Enfin, discuté, on a pu lire là-dessus sur cette fameuse matière noire qui apparemment a une énorme présence et une énorme influence sur ce qu'on voit et ce qui existe du coup. Et je dirais que l'exposition, d'une manière sous-jacente, parle de cet impact de ce qu'on ne voit pas sur ce qui se rend visible. Voilà.
Bah, c'était une question, en tout cas, qui était assez centrale dans la première exposition aussi. C'était de réussir à faire la différence entre un réel qu'on perçoit, du coup évidemment est réel parce qu'on le voit, mais encore que, voilà, et un réel qu'on conçoit, qu'on imagine. Est-ce qu'il suffit, si à partir du moment où on imagine quelque chose, est-ce qu'on peut considérer que ça existe? Et voilà, la question était là, et là c'est aussi effectivement avec ces interrogations une question qu'on peut aussi de nouveau se poser ici. C'est est-ce que ce réel on peut l'imaginer, ou est-ce qu'on le voit, et justement on arrive à être trompé par ce qu'on voit.
Oui, c'est-à-dire que chacune des pièces, d'une certaine manière, nous parle de quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas vu, qu'on ne pourra pas voir, ou que nos capacités perceptives ne nous permettent pas de voir, ou qui s'est passé il y a trop longtemps pour qu'on puisse le voir, ou dont le dispositif même... Qui le donne à voir ne permet pas de le voir. Enfin, y a toujours une sorte de déplacement comme ça qui fait que on a l'impression que le centre de chaque pièce n'est pas là, en fait. On voit le processus qui essaye de le raconter ou qui permettrait de le percevoir, mais que ce qui est au centre est caché, en fait. Un peu comme ici. Comme ce que racontait Émile tout à l'heure par rapport à la perception de la pièce de Laurent Cassia, au moment où tu dis, bon ben voilà, je sens les vibrations, je vois l'image, donc nécessairement quelque chose se passe dans la relation entre les vibrations et l'image, mais finalement ce qui a lieu au croisement des vibrations et de l'image, je ne le vois pas. Je n'en vois qu'une trace physique, une trace visuelle, et je me débrouille avec ces deux choses-là pour... reconstituer quelque chose qui de toute façon m'échappe. Donc c'est...
Malaki Farel joue aussi sur cette idée d'avoir plein de choses visibles au final, mais que tout ce qui se passe est complètement invisible. En fait,
oui.
Il se passe entièrement dans le souvenir et dans le ressenti.
Oui, et comme une sorte de traumatisme, en fait. Oui. Enfin, on a Malaki Farel, on a l'impression que ça parle d'une... Ça parle vraiment d'un traumatisme, ça parle vraiment de quelque chose de ça évoque quelque chose d'ultra-violent que quelqu'un aurait pu traverser.
Collectivement, je pense.
Oui, ou collectivement aussi, oui, c'est très juste. Ouais. Mais là aussi, auquel on n'a pas accès, en fait, d'une certaine manière. Enfin, tu vois, on en reçoit la trace, l'impact, les séquelles, on pourrait dire, mais pas la source.
En fait, c'est le choc existentiel de l'enfance, en fait, se rendre compte que le réel, c'est quelque chose qui m'arrive et qui m'échappe.
Oui.
Mais en même temps que je vais toujours chercher à saisir pour me construire à partir de là. Ouais. Ça peut nous renvoyer à ce fameux nœud borroméen de Lacan entre imaginaire, réel et symbolique, c'est-à-dire les trois, ils sont tellement noués entre eux qu'on ne peut pas les séparer. Du coup, dès qu'on fait appel à l'imaginaire, c'est le réel qui va intervenir et c'est le symbolique qui va porter la possibilité d'en parler, de partager, donc les connaissances. Du coup. C'est intéressant parce que dans ce que tu disais, il y avait vraiment les trois notions qui se...